Bonjour. Je vous laisse. On est dans les Corinthiens. Et je vous laisse regarder cette image pour vous souvenir de ce qui a été dit jusqu'ici. J'espère que ça vous aide. Parce que. En gros, là, on a quand même une bonne image de ce qu'est l'épître aux Corinthiens, en tout cas de ce qu'on va s'amuser à survoler aujourd'hui. Vous avez besoin de voir encore, ça va, vous avez fait mémoire, comme on dit. Ce qu'en le fond, si vous n'arrivez pas à lire, il y a plein de places devant. J'ai essayé d'écrire plus petit, mais je me suis dit quand même. Je vous invite à lire avec moi. Je dis constamment à mon Dieu toute ma reconnaissance à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. En effet, en lui, vous avez été comblés de toute richesse, en particulier en ce qui concerne la parole et la connaissance. Dans la mesure où le témoignage de Christ a été solidement établi parmi vous. Ainsi, il ne vous manque aucun don, à vous qui attendez le moment où notre Seigneur Jésus apparaîtra. C'est lui aussi qui vous affermira jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables le jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à vivre en communion avec son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Et sans transition, on entend généralement dire qu'il y a de l'immoralité sexuelle parmi vous et une immoralité telle qu'on ne la mentionne même pas chez les non-croyants. C'est au point même que l'un de vous a pris la femme de son père. Et en plus, vous êtes enflé d'orgueil. Vous auriez plutôt dû prendre le deuil, de sorte que l'auteur de cet acte soit exclu du milieu de vous. Quant à moi, absent de corps, mais bien présent en esprit, j'ai déjà jugé l'auteur d'un tel acte comme si j'étais présent. Quand vous vous rassemblez au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je serai avec vous en esprit, avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Livrez un tel homme à Satan pour la destruction de la nature pécheresse, afin que l'esprit soit sauvé le jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pas fini. Vous n'avez vraiment pas de quoi être fier. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Purifiez-vous donc du vieux levain, afin d'être une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. En effet, Christ, notre agneau pascal, a été sacrifié pour nous. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, le levain du mal et de la méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. C'est pas fini. Je vous écris encore dans ma lettre de ne pas entretenir de relations avec ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle. Je parlais pas d'une manière absolue. Des gens de ce monde qui vivent dans l'immoralité ou qui sont toujours désireux de posséder plus, voleurs, idolâtres. Autrement, il faudrait vous sortir du monde. En fait, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas entretenir de relation avec quelqu'un qui, tout en se disant votre frère, vit dans l'immoralité sexuelle, est toujours désireux de posséder plus, idolâtre, calomniateur, ivrogne ou voleur. De ne même pas manger avec un tel homme. Est-ce à moi, en effet, de juger les gens de l'extérieur? Eh ben non. N'est-ce pas ceux de l'intérieur que vous devez juger? Les gens de l'extérieur, Dieu les jugera. Chassez le méchant du milieu de vous. Jusqu'ici, la parole de Dieu. C'est intéressant, n'est-ce pas? Ce contraste, il y a d'un côté cet éloge de Paul à l'église de Corinthe. C'est magnifique, hein, là je souligne un peu en rouge ce qu'il dit. Et on aimerait que Paul dise la même chose de notre église. Alors je fais juste une petite parenthèse, il va falloir faire un petit travail sur nous-mêmes quand on lit ce chapitre, c'est qu'on ne parle pas de notre individu, on parle de la communauté. Et nous qui vivons dans un monde tellement individualiste où le centre du monde, c'est moi, ça n'intéresse pas Paul. il parle de nous. Et donc, dans tout ce qu'on va dire, il faut juste se mettre le « nous » et pas le « moi ». Et donc là, il est en train de parler de nous. Nous avons tout cela. La reconnaissance à votre sujet. On a tout, toutes les richesses, la parole, la connaissance, tous les dons. Et Jésus va nous affermir jusqu'à la fin. Mais hop, il y a cette transition. Donc on peut dire que la première partie, on est bien sur les rails, comme nous l'a dit. Puis tout d'un coup, il y a la réalité. Et là, on se demande s'il est vraiment sur les rails, le train. Et puis là, sans transition, Paul révèle, met en lumière un autre visage de l'église de Corinthe. C'est déroutant, c'est, excusez-moi du mot, dégoûtant, c'est nettement moins élogieux. Et là, je me demande ce que Paul dirait de nous. Alors, j'ai fait un petit jeu. Pour information, la première partie, c'est le chapitre 1. Et à partir du 1, c'est le chapitre 5. Mais pour comprendre ce que Paul est en train de dire, on est obligé de mettre ces deux choses ensemble. Parce que si je vous avais lu que le chapitre 5, ça aurait été un peu désagréable. Mais il y a ces deux réalités. Et Paul affirme les deux, et ça me paraît extrêmement important. Alors on peut se dire que d'abord, vous savez, d'abord on brosse dans le sens du poil pour après mieux dire ce qu'on pense. Moi je pense que c'est pas ça, je pense que c'est la réalité de la vie, la réalité de l'Église. On est dans tout cela. J'aime beaucoup un commentateur, je vous le présente, ce livre, ça s'appelle « L'Église au présent ». Qui a écrit, c'est un monsieur Maillot, vieux monsieur, il est décédé. À mon sens personnel, un brillant commentateur. En plus, ça se lit facilement parce qu'il manie le sarcasme avec... j'adore ça. Et voilà ce qu'il dit de ces deux réalités. Je pense qu'il faut qu'on ait vraiment ça en tête. Oui, sans cesse, le plus grand s'entrechoque avec le plus petit. Le royaume qui vient percute le misérable, la misérable église d'aujourd'hui. C'est le heurt permanent entre le minable et le sublime, avec cette certitude que malgré tout, le dernier mot sera Jésus-Christ et à l'amour qui demeure. Dieu nous voit merveilleux, il connaît notre réalité, et à la fin, il y aura la victoire. Mais en attendant, on doit vivre avec les deux réalités. Et c'est tout ça, cet épître aux Corinthiens. Donc, ça me paraissait important de poser cela et d'affirmer ces éléments avant qu'on aille plus approfondir ce chapitre 5. Nous sommes les deux toujours. Tantôt on se sent plus minable, tantôt on se sent plus sublime, mais l'Église est toujours les deux. Et c'est une réalité qu'il faut qu'on intègre. On n'est pas que idéal, on n'est pas que sur terre, on est dans les deux. Et ça, c'est compliqué. Ça fait qu'on doit apprendre à vivre avec cette tension. Parfait en Christ et pourtant encore totalement imparfait. Sauvé en Christ et pourtant encore pécheur, cherchant le royaume de Dieu et aimant tellement ce monde dans lequel on vit. C'est notre réalité. Et quelqu'un disait que la maturité spirituelle commence quand on aura vraiment accepté cette tension. Enfin, on pourra vivre de la grâce de Dieu. Parce qu'accepter cette tension, c'est accepter un moment que Dieu nous fait grâce. Et c'est pour ça qu'il y a la grâce, parce que, justement, moi, je ne peux rien faire, je suis tout le temps dans cette tension. Ça nous oblige aussi à nous dire qu'on doit un peu regarder les autres communautés avec ce même regard. Quand je dis le « nous » à Cossonay, chrétien, c'est qui ? C'est que l'église de Cossonay, l'église évangélique ? Est-ce qu'on accepte les autres ou pas ? Les autres sont aussi imparfaits est bien vu par le Christ. D'ailleurs, on ne doit pas juger ceux qui sont à l'extérieur, mais à l'intérieur, nous dit le texte aussi. Et la seule réponse possible à cela est l'humilité. La seule façon de vivre cette tension, c'est de rester dans l'humilité et se dire, ben oui, je suis sauvé en Christ, pas par ce que je fais, pas par ce que je dis, en Christ, et il me voit sur les rails. Ma réalité, c'est, comme on nous l'a dit, de temps en temps, je déraille. C'est comme ça. Donc il me semblait important de poser cette réalité si on entre maintenant dans « je déraille ». Et là, Maillot dit ça et je suis d'accord avec lui. Quand j'ai accepté de faire la série, il m'a dit « fais le chapitre 5 ». Comme c'est un chapitre que je n'ai pas appris par cœur, qu'on ne lit pas tous les jours, j'avais oublié. Puis après, je l'ai lu, puis j'ai dit à notre pasteur « merci ». Et Maillot, qui est un des grands commentateurs, et beaucoup de commentateurs disent « nous redoutons d'arriver au chapitre 5 des Corinthiens ». Ça faisait mon cauchemar, et ça le reste. Non seulement parce qu'il est extrêmement difficile textuellement à comprendre, mais en plus, ce qu'il dit, on ne sait pas quoi en faire, parce que c'est violent ce qui est exprimé. Donc, bienvenue dans le chapitre 5, ça me semblait important quand même de le préciser, que ce n'est pas un texte facile. Alors, on aime à dire que ce texte parle de discipline de l'Église. Voilà ce qu'il faut faire quand quelqu'un fait quelque chose de pas bien. Et il a tellement été bien appliqué qu'on a brûlé des gens à cause de ce texte, au sens virtuel et au sens réel du terme. Dans certaines brillantes parties de l'histoire de l'Église, on en est venu à brûler des gens parce qu'il fallait les exclure, et autant qu'ils brûlent pour sauver son esprit. Donc, on l'a interprété de diverses manières, ce texte. J'espère que vous ne le comprendrez pas ainsi. Plutôt que de voir ça comme une discipline, je préfère voir ce texte comme les étapes difficiles du chemin de la vie communautaire chrétienne. Qu'est-ce que ça veut dire de vivre en communauté ? Qu'est-ce que ça signifie de vivre comme du pain sans levain ? Finalement, c'est quoi ? Alors on va essayer de voir cela. Ça va toujours ? Tant mieux. En rouge, c'est ce qui me paraît être important de un peu expliquer. En vert, c'est ce que je ne comprends pas. Mais on donnera que deux, trois mots d'explication. Y a une situation un peu critique hein, dans ce texte. Il y a un homme qui, visiblement, fait quelque chose qui ne convient pas. Alors, il y a énormément de commentateurs qui cherchent à savoir ce qu'il a fait exactement. Personnellement, ça ne m'intéresse pas. Et puis, juste pour souligner, je vais ouvrir quelques parenthèses. Je trouve toujours intéressant, quand on lit un texte biblique, souvent on s'arrête sur des détails inintéressants, mais ça nous permet de passer à côté de ce qui est essentiel. J'ai essayé de ne pas tomber là-dedans, donc je ne me suis pas arrêté là-dessus. Par contre, ce que je trouve intéressant, c'est ce qui est en rouge, là. Il a fait quelque chose que l'on ne mentionne même pas chez les non-croyants. C'est-à-dire que ce qui est en train de se vivre dans l'Église, même les non-croyants ne le vivent pas. Un, c'était interdit par la loi romaine. Deux, c'était interdit par la loi juive. Trois, je ne sais pas si on vous l'a déjà dit dans l'Épître aux Corinthes, mais vivre en Corinthien, c'est quand même vivre comme un beau débauché, quoi. Alors quand vous dites à des Corinthiens que même ceux qui vivent en débauché, ils ne font pas ça, c'est que vraiment là, on a dépassé les bornes. Et ça, c'est extrêmement intéressant quand on parle de vie communautaire ou de jugement qu'on porte les uns sur les autres. C'est quoi nos critères ? Et je ne sais pas si vous réalisez la largesse du critère de Paul. Son critère, c'est de dire ce que font pas les non-croyants, pas ce que vous devez faire. Mais comme ça ne se vit pas à l'extérieur, bah, au moins faites pas ça. Vous imaginez cette largesse ? En fait, ça va tellement loin que c'est là. En fait, ils ne sont plus témoins du royaume de Dieu parce qu'ils sont pires que le monde. Et ça, c'est le critère ultime de Paul pour en arriver à une extrême. C'est qu'on vit quelque chose que même le monde autour de nous n'accepte pas. Donc ça, c'est un premier élément qui me semble important de retenir quand on vit en communauté et qu'on aime se juger les uns les autres. Quels sont les critères qui vont me permettre de dire « Attends, là, c'est quand même un peu trop. » Je ne vais pas répondre à cette question. On ne le mentionne même pas chez les autres. Donc c'est quand même assez important. Mais il y a un deuxième élément pour éviter, vous savez, ce bouc émissaire. Lui, c'est quand même terrible. Eh bien, Paul, il dit, oui, lui, c'est terrible, mais vous, vous êtes dans l'orgueil. Donc, tout le monde fait partie, pour Paul, des gens imparfaits. Et cet orgueil est tel que vous ne voyez même plus que ce qu'il fait est terrible. Alors, je ne vais pas revenir sur cette notion d'orgueil qui, me semble, a été développée à la dernière prédication sur le chapitre 4, mais ça me paraît important. Vous ne pouvez plus, vous n'êtes plus capable de vivre dans l'humilité, d'accepter cette tension, de voir quelles sont les limites. Vous êtes trop fier de vous. Et ça, ça fait que la communauté n'est pas saine. Donc, il n'y a pas que la question de l'immoralité de la personne, il y a la question de toute la communauté qui est concernée par cela. Et toutes doivent un moment. Alors, il n'est pas en train de nous dire, s'il vous plaît, regardez ce qui ne va pas, puis accusez-vous les uns les autres. Non, il est en train de dire, est-ce que vous êtes encore capable de voir le vrai levain ou de ne pas voir simplement l'arbre qui cache la forêt ? Vous savez, des fois, on met une seule chose, puis on s'y attaque, et puis on ne voit plus l'essentiel de ce qui est devenu. Cet orgueil communautaire fait qu'il devienne aveugle, et pourtant... Au chapitre 1, souvenez-vous, ils avaient tous les dons, toute la parole et toute la connaissance. Visiblement, ce n'est pas suffisant. Puisque même avec ça, ils sont arrivés dans une situation pareille. Il devait y avoir d'autres soucis que uniquement avoir tout ça. Alors les questions à ce stade, pour nous, Église de Cossonay, c'est quoi les limites qui vont faire que la communauté n'est plus témoignage du royaume de Dieu par ses œuvres, parce qu'elle vit. Et là, ce qu'il vivait faisait qu'il n'était plus témoignage. Qu'est-ce qui est ici? C'est quoi les limites? Et comment faire pour que cet orgueil ne nous aveugle pas et que finalement on le voit même plus? Dans d'autres domaines, on dirait, c'est quoi notre angle mort? Il est où? Et c'est ça qu'il faut chercher, et c'est ça que nous dit au début. Petite parenthèse pour le livret à Satan, qui est en vert quand même, c'est une formule d'excommunication qui était assez classique chez les Juifs. C'était une façon de parler, de dire, remettons-le hors de la communauté, c'est-à-dire finalement plus dans le royaume de Dieu, mais dans le royaume qui est dirigé par Satan. Ça finalement dit l'exclusion de là où est Dieu, de la sphère d'influence. On pourrait dire, il veut pécher, qu'il pêche, mais pas chez nous. C'est plus clair comme ça. Mais de nouveau, un péché qui est pire que ce que le monde fait. Pas tous les péchés. Retenez quand même ça, hein, c'est important. C'est un peu rude, vous en conviendrez. Mais retenons aussi le but, c'est pas de garder la pureté de la communauté. C'est pour qu'ils soient sauvés, afin que l'esprit soit sauvé le jour du Seigneur Jésus. Parce que c'est toujours important de voir ce qui se dit ailleurs, ça c'est 2 Corinthiens. Si l'un de vous a été une cause de tristesse, ce n'est pas moi qui l'a attristé, mais vous tous, ou en tout cas une partie d'entre vous, pour ne rien exagérer. J'adore cette phrase. Paul qui s'emballe, puis après dit non, revenons, j'exagère. Le blâme que lui a infligé la majorité d'entre vous est suffisant pour cet homme. Aussi devriez-vous à présent lui accorder votre pardon et le réconforter. Afin qu'il ne soit pas accablé pour une tristesse excessive, je vous engage donc à lui témoigner de l'amour. Et beaucoup de commentateurs disent que finalement, dans 2 Corinthiens, on parle du même homme. C'est bon, on lui a dit. Mais ce qui est plus important, et je vous rappelle ce commentaire de Maillot, ce qu'il va gagner, c'est l'amour du Christ. Témoignez-lui aussi de votre amour. C'est bon, il est dans la tristesse. Maintenant, ramenez-le. Alors, on peut discuter, est-ce que c'est vraiment de cet homme ou pas? Ça, je laisse les gens. Mais quel est le but que nous avons? Quand on fait, entre guillemets, de la discipline d'église, c'est quoi notre but? Est-ce pour sauver la personne? Est-ce pour qu'elle se rapproche du Christ? Ou est-ce que c'est juste parce que ça nous dérange un peu quand même? C'est pas du tout la même chose. Quelle est notre motivation derrière cela? Ça me paraît important. Donc jusque-là, on peut retenir qu'il y a des limites à ne pas franchir, mais qu'elles sont assez larges, selon moi. Et oublions pas notre orgueil qui fait qu'on ne voit plus des fois ces limites. Alors on se dit, ouais, là, c'est gros. Mais regardons chez nous, est-ce qu'il n'y a pas des limites, finalement? Je ne sais pas, que je ne vois plus. Et la deuxième question, alors pourquoi est-ce qu'on reprend les gens? C'est quoi le but? Quelle est la motivation? Ça va toujours? J'ai dit à Yoann que j'avais aucune notion du temps sur ce texte. Suite du texte, alors c'est plutôt une explication, mais je trouve assez intéressant. C'est un lien évident à l'Ancien Testament et par rapport à la Pâque. Et qu'après la Pâque, il y avait cette période de 7 jours où il y avait les pains sans levain et on ne devait pas en garder la moindre trace dans la maison de ce levain. Et on sait bien que dans la Bible, le levain a quand même cette symbolique du mal, de ce qu'on doit retirer de nous. Maintenant, ce qui est intéressant, si on en vient pas à l'Ancien Testament, mais à ce qu'on vit aujourd'hui, finalement, la Pâque que nous fêtons, c'est la venue du Christ. Il s'est offert en croix, on pourrait dire c'est la Pâque perpétuelle pour nous, parce que c'est pas seulement un moment de l'année que Christ nous sauve, c'est tout le temps, c'est tous les jours. Ça fait que cette fête qui était annuelle, la demande de Paul là-dedans, et c'est ce qu'il dit, le Christ s'est sacrifié, c'est tous les jours maintenant. C'est pas juste 7 jours après la fête, c'est tous les jours que vous devez vivre sans levain. Donc vous devez l'observer continuellement, dans le sens que nous sommes appelés à mener cette vie sans levain, sans péché. On doit se préserver de tout le mal. Donc ce que je trouve intéressant dans ce que Paul dit là, c'est « Ok, il y a eu la Pâque à une époque, mais pour vous, Christ s'est donné et c'est tous les jours. » Donc ce n'est pas une question à un moment donné de votre histoire. Donc finalement, ce qu'il est en train de nous dire, les limites à ne pas franchir, attention à votre orgueil, pourquoi reprendre les gens, mais surtout, soyez une communauté saine. Je vous rappelle toujours, quand il dit « N'ayez pas de levain », il ne parle pas de vous. En tant qu'individu, il parle de nous. C'est ici, dans la communauté chrétienne, qu'il ne doit pas y avoir de levain. Alors bien sûr que ça va passer par l'individu, mais pas que. Ce qu'il nous demande, c'est d'être une communauté saine. Pourquoi? Pour être témoin du royaume de Dieu. Et ça, c'est fondamental. Je reviens là, je préfère. On doit se purifier communautairement. Alors, faut pas dire ça. Quand la personne écoute ça sur Internet, faut bien écouter la suite aussi, parce que ça fait bizarre de dire ça comme ça. C'est pas simplement l'autre qui doit vivre cela. Comme je l'ai dit, c'est nous tous. Et concrètement, ça signifie quoi? Comment on le vit communautairement? Et là, ça doit nous faire penser à un autre chapitre des Corinthiens, qui est le chapitre 13. L'amour. C'est ça qui va demeurer. C'est ça qui va faire la différence. Qu'importe que vous prophétisez, peu importe que tu aies des paroles de connaissance, ce qu'il reste, c'est l'amour. C'est en vous aimant les uns les autres que le monde verra que vous êtes chrétien. C'est en étant unis que le monde verra que vous êtes chrétien. C'est là qu'il va se passer quelque chose. Et je trouve intéressant, chapitre 1, vous êtes comme ça. Au milieu, c'est un peu compliqué. Et chapitre 13, là est le fondamental. L'amour, la foi, l'espérance, ça va rester. Et c'est là-dessus que vous devez travailler. En gros, il ne dit pas enlever simplement le mal, mais j'aime bien le voir autrement. Devenez ce que vous êtes. En Christ, vous êtes le chapitre 1. Vivez-le. C'est pas compliqué. Il nous dit simplement ça. Vous êtes ce chapitre 1. Vivez-le. Christ a tout fait, il vous a tout donné. Vivez-le. Soyez ce que vous êtes. Ça, c'est la partie facile. Donc, on arrive à la fin, je vous rassure. La petite remarque sur dans ma lettre, de nouveau, beaucoup de discussions. Il semblerait qu'il y a quand même eu un échange de courriers assez gigantesque entre les Corinthiens et Paul. Nous, on n'a que deux lettres, mais il y en a d'autres. Et là, le problème, c'est qu'il fait référence à une lettre qu'on n'a pas. Mais certainement que les Corinthiens lui ont posé des questions sur ce qu'ils étaient en train de vivre. Et en fait, Paul y a répondu. Et il fait référence à cet échange qu'ils avaient entre eux. Ensuite, ce que je trouve intéressant, c'est cette différence qu'il fait entre le « dans » et « hors église ». En fait, il est en train de dire comment être une communauté saine. Comment ne pas être en communauté avec le levain. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il dit bien que le levain n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Souvent, on veut se préserver du mal qui vient de dehors. Ben là, il dit, il est dedans. Ça ne sert à rien de vous préserver de ce qui est dehors. Il est déjà là. Donc, comment vous faites pour, finalement, vous préserver de ce qu'il y a dedans? Et les règles que Paul a posées pour les Corinthiens concernent leur communauté. N'entretiens pas de relation avec celui qui pêche. Ça, c'est très compliqué, parce que du coup, j'avoue que je ne sais plus avec qui être en relation. Me connaissant et sachant que je suis pêcheur, finalement, si j'applique ce texte à la lettre, vous ne pouvez pas être en relation avec moi. Vous ne pouvez pas manger avec moi, l'apéro va être un peu compliqué. Mais finalement, c'est ce que dit ce texte. Qu'est-ce qu'on en fait? Comment est-ce qu'on aborde cette question-là? Alors d'un côté, il dit, pour ceux qui ne sont pas de la communauté, ce n'est pas votre problème, c'est le problème de Dieu. Ça, c'est une autre question. Comment est-ce qu'on juge, vous savez, nos concitoyens, la société, qu'on aime à dire qu'ils ont tout faux? C'est pas notre problème, problème de Dieu. Nous, notre problème, c'est comment être une communauté saine pour être témoin d'un autre royaume. Ça, c'est notre problème. L'arbre qui cache la forêt, à réfléchir. Mais pour revenir à cette question, comment on va quand même rester en relation, je vous rassure, j'aimerais juste faire une petite différence qui me paraît assez importante. C'est, je crois que j'en ai parlé une fois, pardon, c'est un peu des gros mots, mais c'est fondamental quand on lit la Bible, c'est faire la différence entre une loi apodictique et une loi casuistique. Je m'explique. Les derniers mots de ce chapitre, « Chassez le méchant du milieu de vous ». Ça, c'est une phrase qu'on retrouve régulièrement dans la Bible. Donc, quelque part, on peut dire « c'est une loi apodictique » et ça signifie « c'est une loi que vous n'avez pas le choix de mettre en pratique. Vous devez la vivre. Aime ton ennemi est une loi qu'on n'a pas le choix. On doit la mettre en pratique. » Les lois casuistiques, c'est celles qui, en fonction du contexte, ben, on les vit différemment. Et pour vous montrer cela, on est dans le Deutéronome. Donc, un de ces super textes sympathiques que je vous lis. Il se trouvera peut-être au milieu de toi, dans l'une des villes que l'Éternel, ton Dieu, te donne, un homme ou une femme qui fasse ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, ton Dieu, et viole son alliance, qui aille servir d'autres dieux et se prosterner devant eux, le soleil, la lune ou tous les corps célestes. Ce n'est pas ce que j'ai ordonné. Dès que tu en auras connaissance, que tu l'auras appris, tu feras avec soin des recherches, pour savoir déjà si c'est vrai, si c'est établi, alors tu le feras venir au port de la ville, l'homme ou la femme coupable de cette mauvaise action, et hop, tu le lapides et tu le punis de mort. Moi, j'aurais fait l'inverse, mais... C'est sur la déposition de deux ou trois témoins que l'on fera mourir quelqu'un. La déposition d'un seul témoin ne suffira pas. Les mains des témoins se lèvera la première contre lui pour le faire mourir, puis celle de tout le peuple. Tu extirperas ou tu chasseras ainsi le mal du milieu de toi. Je pense qu'il faut vraiment être au clair que chasser le mal du milieu de nous, on doit le faire. Comment on le fait? C'est casuistique. C'est-à-dire qu'en Deutéronome, ben voilà comment ils faisaient. Aujourd'hui, en fonction de nos standards, on sait que ce n'est pas très facile à appliquer. Et Paul, finalement, il fait la même chose dans le contexte de Corinthe. Chasser le mal n'est pas une question. Mais vous, dans ce que vous vivez, voilà comment vous allez le faire. Un, vous occupez de vos oignons. Deux, ben, celui qui est mauvais à côté, tu ne lui parles pas, parce que quand tu lui parles, ça ne va pas aller. Voilà. Mais il ne nous dit pas, excusez-moi de le dire aussi, il ne nous dit pas, fais cela à la lettre. La question que l'église de Cossonès doit se poser, c'est comment on chasse le mal du milieu de nous. Et là, c'est notre problème. Et c'est à nous de déterminer. Et c'est ça qui est fondamental. Et le légalisme, c'est quoi ? Ben, c'est quand on fait d'une loi casuistique une règle pour tout le monde. C'est-à-dire quelque chose qui est dans un contexte qu'on ne peut pas appliquer, mais on veut absolument l'appliquer. C'est là que vient le légalisme. Mais faire ce que Dieu demande, c'est pas du légalisme, c'est de l'intelligence. Et il faut absolument faire cette différence, parce que sinon on va vous accuser de légalisme quand ce n'en est pas, et puis on va croire qu'on fait ce que Dieu demande quand on ne le fait pas non plus. Donc il faut différencier ces deux éléments. Ça me paraissait important de souligner cela. Donc pour conclure, les limites et l'orgueil, pourquoi reprendre les gens et être une communauté saine ? Mais oui, mais alors comment être une communauté saine ? Paul n'y répond pas. Il dit, voilà comment à Corinthe on faisait. Mais vous, maintenant, c'est votre problème. Et tout prédicateur qui arrive à la fin de sa prédication se pose cette question, finalement ça va changer quoi la vie communautaire de l'église de Cossonay de savoir tout cela ? Est-ce que j'ai rempli votre cerveau ? Est-ce que je vous ai donné de la connaissance ? Ou même pas, parce que vous saviez tout, ou ça ne vous intéressait pas ? Ou est-ce que finalement ça nous met sur ce chemin difficile de la vie communautaire ? Et y répondre, c'est très différent. Et moi j'avoue que je n'aime pas ce texte. J'ai vraiment dû m'y accrocher pour essayer d'en tirer quelque chose. Mais le plus dur dans ce texte, c'est finalement qu'est-ce que j'en fais concrètement ? Qu'est-ce que ça signifie être une communauté saine qui est témoin du royaume de Dieu à Cossonay ? Pour moi, ça, c'est le plus compliqué. Je vous invite à prier. Nous aimons à dire, Seigneur, que ta Bible est parole de Dieu. Ben, Seigneur, je dois avouer qu'il y a quand même des paroles qui sont plus ou moins faciles à entendre, à comprendre et à mettre en pratique. Mais Seigneur, tu nous interpelles quand même dans ce texte. Tu nous demandes quand même des choses à vivre en communauté. Mais Seigneur, d'un côté, on est chrétien et sauvé en toi, d'un autre, on reste ces êtres pécheurs. C'est pour ça qu'on a profondément besoin de ton esprit pour venir nous dire ensemble ce que l'on doit vivre. Merci pour ces textes qui ne nous laissent pas indifférents. Merci pour ces textes qui viennent quand même un peu nous mettre en route, du moins je l'espère. Mais nous voulons le vivre avec toi, dans ta présence. Et rappelons-nous que tu nous as tout donné, la connaissance, les dons, la sagesse, tout cela nous l'avons, que nous sachions l'utiliser à bon escient. Amen.